Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h30, le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les vacances ont déjà quasiment commencé au collège Champollion de Dijon, mais vous allez l'entendre, ça ne fait pas si plaisir que ça aux élèves dont l'établissement a été incendié, probablement par des narcotrafiquants. Face à la colère des agriculteurs qui se battent contre l'abattage de leurs vaches, les vétérinaires en première ligne, leurs craintes et leur incompréhension dans ce journal. Et puis la vidéo a déjà fait le tour du monde, celle du père de famille qui a désarmé l'un des terroristes de Sydney en Australie, sauvant des dizaines de vies.
Les grilles du collège Champollion à Dijon ne rouvriront pas ce matin.
Et pour cause, l'établissement a été ravagé par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Il ne pourra pas rouvrir avant la prochaine rentrée de septembre, tant les travaux s'annoncent colossaux. Les 490 élèves auront cours à distance à partir de jeudi. Pour l'heure, c'est bien la piste criminelle qui est envisagée. Et selon le préfet de Côte d'Or, cela pourrait bien avoir un lien avec le narco-banditisme. Pas rassurant pour ces parents d'élèves rencontrés par Caroline Renaud pour RMC.
Des murs noircis par les flammes, des ordinateurs en cendres et des plafonds fondus. En voyant les photos des dégâts du collège de sa fille, Nadia a du mal à y croire.
Brûler un endroit symbole de l'éducation, c'est d'une violence inouïe. Les enseignants, les élèves n'y sont pour rien.
Même émotion chez Aziza, mère de deux enfants en 5e et 3e.
Je n'ai les larmes aux yeux. C'est un désespoir, c'est d'une tristesse, c'est de la colère.
Elle est aussi représentante de parents d'élèves et s'inquiète pour les 490 collégiens de l'établissement.
Qu'est-ce que vont devenir nos enfants ? L'étape psychologique de nos enfants après cet incendie.
Dès ce matin, deux cellules d'écoute accueilleront les élèves, mais aussi le personnel éducatif, car la piste du narcotrafic, privilégiée par le procureur de la République de Dijon, alarme plusieurs professeurs comme François.
Et là, on vient de s'attaquer au bâtiment, parce que la prochaine étape, ça ne sera pas agression physique sur le personnel de l'éducation nationale.
Les cours reprendront à distance dès jeudi et jusqu'aux vacances de Noël. L'organisation à partir de janvier, elle, reste à déterminer.
Et notez que les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur se rendront sur place aujourd'hui. Annie Genevard, elle, se rend à Toulouse ce matin. La ministre de l'Agriculture va tenter d'apaiser la colère des éleveurs qui s'opposent à l'abattage généralisé de leurs vaches en cas de contamination à la dermatose nodulaire. Elle lancera la campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la maladie avec en première ligne les vétérinaires sur le pont et parfois ciblés par les agriculteurs. Une colère qu'ils comprennent mais qu'ils ne digèrent pas, Marion Gauthier.
Beaucoup gardent le silence. Les menaces se sont amplifiées sur les réseaux sociaux.
Et on craint qu'un tel ou un tel soit tout d'un coup nommé.
Raconte Frédéric Decante, le secrétaire de l'Ordre des vétérinaires d'Occitanie, témoigne de l'incompréhension dans sa région.
Comment être fustigé, comment recevoir de la terre sur les voitures, comment être arrivé avec ses gendarmes. Quand on est prêt comme ça, nuit et jour, à partir pour aller aider, pour être des personnels de soins. C'est insupportable, cette violence.
Des soignants proches des agriculteurs et qui redoutent les abattages, insiste, ému, le docteur Alexandre Dimberton en Bourgogne-Franche-Comté.
C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais c'est quelque chose qu'on fait pour l'intérêt de nos éleveurs. Et ce qui me blesse, c'est que des éleveurs doutent de ça. Ces opérations-là qu'on fait, on les fait pour la santé globale de tout le monde, pour économiser, entre guillemets, des vies à des animaux et permettre aux éleveurs voisins de ne pas être contaminés.
Il rappelle qu'en Savoie et en Haute-Savoie, l'abattage des troupeaux infectés et la vaccination ont permis d'éradiquer l'épidémie de dermatose nodulaire.
Et appelez-nous pour témoigner, que vous soyez agriculteur vous-même ou que vous les souteniez. Dites-nous aussi également si vous voyez des blocages autour de chez vous. On vous attend au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424.
Il est 7h33 sur RMC. En Australie, le bilan s'est alourdi après l'attentat antisémite qui a eu lieu à Sydney hier en pleine fête de Hanouka. 15 morts, dont un jeune Français de 27 ans et une quarantaine de blessés. Les deux assaillants, un père et son fils, ont été pour l'un abattus, pour l'autre blessés. Mais derrière l'horreur de ce drame, il y a un homme qui a redonné espoir au monde entier par son courage. C'est lui qui s'est interposé auprès de l'un des tireurs. Il s'appelle Ahmed et son acte héroïque a fait le tour du monde, Lou Garnier.
Sur une vidéo amateur, on le voit se jeter sur l'un des deux assaillants par derrière. Après quelques instants de lutte, il réussit à le désarmer. Il le tient en joue et l'assaillant recule. Une chaîne de télévision australienne l'a identifié. Il s'agit d'un père de famille de 43 ans, propriétaire d'un magasin de fruits. Selon son cousin, il a été blessé à deux reprises pendant l'altercation, mais ses jours ne seraient pas en danger.
Il a reçu deux balles, l'une dans son bras, l'autre dans sa main. C'est un héros. À 100%, c'est un héros.
Un acte de bravoure salué à travers tout le pays. Chris Minns, c'est le chef du gouvernement de la province de Sydney.
Je pense qu'il faut se rappeler que dans tout cet enfer, dans toute cette tristesse, il y a toujours des Australiens courageux prêts à risquer leur vie pour aider des inconnus.
Son courage a permis d'éviter de nombreuses victimes supplémentaires, selon les autorités locales.
L'appel de la dernière chance de la mère de Christophe Glaise, ce journaliste français incarcéré en Algérie et condamné à 7 ans de prison ferme en appel pour apologie du terrorisme. Sylvie Godard a adressé au président algérien une demande de grâce pour son fils qui va par ailleurs se pourvoir en cassation. Il est 7h35 sur RMC et les handballeuses françaises repartent des mondiaux aux Pays-Bas médaillées de bronze après leur victoire 33-31 arrachée après prolongation contre les Néerlandaises qui jouaient donc à domicile. Une joie immense et un beau cadeau d'anniversaire pour Fatou Karamoko, dont c'était la toute première compétition en bleu.
C'est incroyable, franchement. Les émotions que j'ai vécues ce soir, c'est waouh. Je sais pas quoi dire, je suis juste hyper contente qu'on ait gagné cette putain de médaille parce qu'on a vraiment bossé tout ensemble. Le travail qu'on a fait, il a payé quoi. Là, elles étaient chez elles avec leur public, etc. Donc elles allaient faire le show et tout. Fallait les éteindre et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 20 ans et il y a la breloque autour du cou, donc ça fait plaisir. Voilà, pas meilleur cadeau, j'en parlerai à mes gosses.
En football, l'OM conserve sa troisième place grâce à sa victoire 1-0 face à Monaco hier soir avec un but tardif inscrit par Mason Greenwood à 10 minutes de la fin. Lens de son côté conserve sa place de leader devant le Paris Saint-Germain.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Sign of Stars. L'outsider, c'est le 7, Kamakura One.
C'était le journal d'Élise Dangean.